Plus question d'aller directement aux urgences des hôpitaux de Saône-et-Loire la nuit. L'accès passe par un appel au 15 avant. Cela devient obligatoire pour 3 mois. Combat d'imprimante 3D samedi dernier au Fab Lab de Montagny près Louhan. Et le vainqueur est la réponse du président du Fab Lab dans ce journal. Un militant du réseau Sortir du nucléaire de l'Ain dénonce le danger que représente la centrale du Bugey dans un livre. Cela concerne les Bressans. Nous l'écouterons. Et puis 2 voyages dans notre actualité, en cargo à voile pour 15 000 bouteilles de vin de Bourgogne et à pied parmi de magnifiques paysages pour le jeune Bressan Thibaut Lollieux. Bonjour à tous. Depuis quelques jours, on ne peut plus se rendre directement aux urgences de l'hôpital de Chalon-sur-Saône la nuit. Il faut d'abord passer par une régulation en appelant le 15. La mesure s'applique depuis le 9 août sur le créneau de 18h jusqu'à 8h du matin pour les 3 prochains mois jusqu'en novembre. Cela s'applique à Chalon, mais aussi à tous les hôpitaux de Saône-et-Loire, soit 6 centres hospitaliers du département. Après avoir composé le 15, des professionnels de santé donnent un premier avis et oriente les patients chez un généraliste ou bien aux urgences si l'appel relève bien d'une problématique vitale. Cette régulation de nuit fait l'objet d'un arrêté de l'Agence régionale de santé. Elle est destinée à éviter bien sûr la saturation des urgences, une mesure qui était déjà appliquée à l'hôpital de Mâcon. La commune de Frangy-en-Bresse a récemment reçu la visite du sous-préfet de Louhan. Madame le maire lui a présenté son village de 679 habitants, une surface de 2400 hectares sur 12 hameaux à la limite du Jura. Une commune dont les habitants sont d'ailleurs plutôt tournés vers Blétrand et Lons-le-Saunier pour les services économiques et médicaux. La municipalité de Frangy regrette que son projet de maison médicale n'ait pas abouti, mais elle dispose quand même d'un médecin à mi-temps, de 2 infirmières, d'une ostéopathe et d'un magnétiseur. La commune compte également quelques artisans du bâtiment, 3 commerces, mais la boulangerie est actuellement fermée. Son gros projet, c'est la construction en cours d'une nouvelle chaufferie bois pour le respect des nouvelles normes de transition écologique. Cette chaufferie devrait être opérationnelle en octobre prochain.
Le Fab Lab de Montagny près Louhan a organisé samedi dernier un étonnant combat d'imprimantes 3D.
Oui, un affrontement entre 2 géantes de l'impression en 3 dimensions. D'un côté Prusa, tenante du titre, alliant puissance, précision et fiabilité, une imprimante européenne. De l'autre, Creality, sa concurrence chinoise, ayant pour elle la rapidité, l'innovation et le rapport qualité-prix. Un combat organisé par l'équipe du président Xavier Vincent pour mesurer l'évolution de cette technologie.
Les imprimantes 3D ont été longtemps arrivées à un stade de maturité qu'on ne pensait pas pouvoir dépasser. Et là sont arrivées dernièrement des petites nouvelles sur le marché. Et l'idée, c'était de comparer une nouvelle imprimante, une nouvelle génération, avec une ancienne qui est une référence en la matière, et de voir si on gagnait en rapidité, comme indiqué sur le papier, et si surtout on ne perdait pas en qualité.
En direct, devant un public d'une 20aine de personnes, le duel consistait à imprimer le plus rapidement possible une même pièce en plastique de quelques centimètres.
Le Challenger, c'était un modèle asiatique qui souffre de la réputation des modèles asiatiques en Chine, qui, sur le papier, annonce des vitesses qui sont délirantes. On a l'impression de passer dans une autre galaxie là. Donc, on a lancé la Prusa, une petite erreur de lancement sur la version chinoise. Donc, elle a démarré après sa concurrente. Donc on a perdu 5 minutes comme ça. Ensuite, elle a eu un processus de calibration des imprimantes. La chinoise est encore en étalonnage. Son étalonnage est assez long. Le modèle Prusa, lui, est arrivé à peut-être 1 cm d'impression de haut à ce moment-là. Et puis d'un seul coup, la chinoise s'est lâchée au niveau vitesse. Et là franchement, c'était le jour et la nuit, quoi.
Le jury a jugé irréprochable la qualité des 2 pièces produites grâce aux innovations technologiques. Par contre, pour le temps nécessaire, le verdict est sans appel en faveur de la chinoise.
La partie d'impression réelle de l'imprimante chinoise a duré un peu plus de 17 minutes, plus le temps qu'on a perdu au début. On va dire qu'on a rajouté 5 minutes, donc en 20-25 minutes, c'était plié. Le modèle Prusa a pris 1h20 pour la même création. En tenant compte des problèmes qu'on a rencontrés, on a une vitesse qui est 3 fois plus rapide. Voilà. Je pensais qu'on avait atteint un seuil qu'on ne pourrait pas dépasser. Là, aujourd'hui, on m'a donné tort. Grâce à de nouvelles technologies, on gagne énormément en vitesse.
Selon Xavier Vincent, les imprimantes 3D sont entrées dans une autre dimension, une dimension d'ailleurs accessible au grand public pour un tarif compris entre 500 et 600 euros pour l'imprimante chinoise. Deux blessés légers, c'est le bilan quasi miraculeux de la collision entre un poids lourd et une voiture survenue dimanche soir sur la route centrale Europe-Atlantique à hauteur de Montchanin. La voiture a pris feu et la voiture roulait à contresens. Le camion s'est embrasé après un accrochage avec la voiture qui arrivait en face. Les deux conducteurs s'en sortent avec des blessures légères. Par chance, la voiture a été percutée côté passager et le chauffeur routier était sorti de sa cabine à l'arrivée de secours, mais son camion avait déjà pris feu, totalement calciné. Le poids lourd transportait du mobilier. La route a été coupée à la circulation une bonne partie de la journée d'hier, le temps d'enlever la carcasse du poids lourd. Le conducteur de la voiture à l'origine de l'accident fait l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire. Des analyses en cours doivent dire s'il était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants quand il a pris la route à contresens. Contrôlé à 185 km/h avec un permis probatoire, un jeune automobiliste a fait assez fort samedi dernier. Il a été flashé sur la route centrale Europe-Atlantique à hauteur de Solony dans le Clunisois, donc à 85 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée de 100. Le conducteur originaire de l'Ain a vu son Audi A3 immobilisé immédiatement par les gendarmes. La voiture a été placée en fourrière et l'automobiliste s'est vu retirer son récent permis de conduire. Un an de prison ferme avec maintien en détention pour un homme violent qui comparaissait hier devant le tribunal de Lons-le-Saunier. Il devait répondre de coups et menaces sur sa compagne. Coup de poing au visage, couteau sous la gorge, menace de mort. Une compagne d'ailleurs absente à l'audience. L'homme a déjà 9 condamnations à son casier judiciaire pour des affaires de stupéfiants, de violences avec armes et même une condamnation pour enlèvement et séquestration. À la barre, il a soit nié les faits qui lui sont reprochés, soit tenté de les minimiser. Le tribunal de Lons le condamne à 1 an de prison ferme avec maintien en détention. Il lui est également interdit d'entrer en contact avec sa victime pendant 3 ans.
La compagnie japonaise TEPCO annonce qu'elle va, à titre d'essai, commencer dès jeudi un travail d'élimination des débris radioactifs du réacteur numéro 2 de la centrale de Fukushima.
Et beaucoup plus près, mais vraiment beaucoup plus près de nous, un habitant de l'Ain publie un livre sur le danger que représente la centrale nucléaire du Bugey, à moins de 100 km de la Bresse bourguignonne. Jean-Pierre Collet a écrit « Claudette et la centrale », un livre où il dialogue avec humour avec sa belle-mère, une Française moyenne, au sujet des dangers de cette centrale du Bugey.
Avant de faire le livre, on a eu quelques conversations avec ma belle-mère au sujet donc de l'énergie nucléaire et je voyais très bien qu'effectivement, à travers ce qu'elle me disait, je retrouvais tout un tas d'arguments ou de choses que j'avais eu l'occasion d'entendre dans d'autres circonstances. Et effectivement, Claudette, elle est un peu cette personne qui pense que le nucléaire est une forme de mal nécessaire et que malgré tout, on est bien content d'avoir le nucléaire et que sans le nucléaire, on ne pourrait pas faire autrement, quoi.
La centrale du Bugey est désormais la plus vieille de France, une centrale vétuste et qui fuit. Elle est étroitement surveillée pour des incidents à répétition.
La centrale du Bugey a connu et connaît un certain nombre d'incidents, d'événements, comme elle aime à le qualifier EDF. Enfin, en fait, c'est des pannes techniques, c'est des problèmes de fuite, de manière récurrente, que ce soit des problèmes de fuite, de tritium, comme c'est arrivé à plusieurs reprises, d'ailleurs pour lesquels on a porté plainte et on a d'ailleurs gagné. Effectivement, on a fait condamner EDF pour mise en danger d'autrui, parce qu'effectivement, il y a eu à plusieurs reprises des fuites de tritium, mais il n'y a pas que les fuites de tritium, il y a aussi des problèmes de pannes, de vannes, des vannes qui ne se referment pas alors qu'elles devraient se refermer ou inversement. En soi, on pourrait toujours dire oui, c'est pas si grave que ça, sauf que ça se répète, ça se cumule et on n'est jamais à l'abri d'un plus gros incident.
Jean-Pierre Collet est enseignant en retraite et il est aussi le responsable du réseau Sortir du nucléaire de l'Ain. Il voit dans la centrale du Bugey un danger non négligeable.
Un des anciens directeurs de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, Pierre-Franck Chevet, j'en parle dans le bouquin, a dit il y a quelques années que la question n'était pas de savoir si on aurait un jour un accident nucléaire majeur en France, mais c'est de savoir où et quand. C'est-à-dire que de l'aveu même de ce représentant, qui était quand même quelqu'un qui sait de quoi il cause et qui n'est pas du tout anti-nucléaire, il n'écartait pas du tout la possibilité, la probabilité d'un accident nucléaire majeur en France.
En cas d'incident, voire d'accident grave, comme à Tchernobyl ou Fukushima, une importante population serait concernée bien au-delà du périmètre de 20 km classé à risque.
Ça n'englobe pas l'agglomération lyonnaise. Donc on sait très bien, depuis Tchernobyl, on a appris à comprendre que le nuage radioactif ne s'arrêtait pas aux frontières, même s'il a fallu quelques années pour l'admettre. Et donc, si effectivement il y avait une pollution radioactive majeure, on peut facilement imaginer, selon les vents dominants, que la population, l'agglomération lyonnaise serait touchée. Lyon, au bas mot, c'est 2 millions de personnes. Donc en fait, c'est plusieurs millions de personnes qui seraient impactées par une pollution radioactive majeure en cas d'accident.
Le nucléaire n'est pas un mal nécessaire, selon Jean-Pierre Collet. Il estime qu'on pourrait s'en passer sans craindre de coupure d'électricité. Son livre « Claudette et la centrale » est disponible sur Internet aux éditions Edilivre.
15 000 bouteilles de vin de Bourgogne font actuellement route vers les États-Unis en cargo à voile, Yannick.
Oui, je sais que ça vous fait envie, Vivien. Ces bouteilles, elles ont embarqué le 9 août dernier au port du Havre à bord de l'Anemos, premier cargo voilier du monde. Celui-ci doit arriver ces tout prochains jours avec sa cargaison de vin de Chablis et de Côte-de-Beaune. Il transporte 1 000 tonnes de marchandises. Son objectif, mettre en lumière un transport plus écologique. Les 15 000 bouteilles viennent de la maison Joseph Drouin à Chablis. Elle a réalisé son bilan carbone et parmi les principales sources d'émissions, il y a le transport. La maison de vin a donc stoppé l'expédition par voie aérienne et recherche des moyens alternatifs. Elle va faire 2 expéditions par cargo voilier par an pendant 3 ans. 15 000 bouteilles à chaque fois, c'est l'équivalent d'un camion complet. L'autre voyage auquel on s'intéresse cette semaine est celui de Thibaut Lelieu, avec beaucoup plus de verdure et beaucoup moins de chablis. Ce jeune de Sornay, parti à pied sans argent à destination de l'Islande, après bientôt 5 mois de périple, les galères, les rencontres, il nous parle des paysages qu'il traverse avec un coup de cœur pour le centre et le nord de l'Irlande.
C'est magnifique, c'est vraiment pour l'instant les paysages les plus beaux que j'ai vus de mon voyage. Ça ressemble un peu à la Bretagne. Les lacs sont immenses, les montagnes aussi, et c'est ce qui est typique irlandais, c'est qu'il pleut toute l'année, donc les montagnes sont vertes en fait. Les lacs sont incroyables, je me suis baigné dedans aussi, même s'il faisait 10 degrés, je me suis baigné dedans. J'ai grimpé une montagne pieds nus aussi. Il y avait une raison. Alors la raison, c'est que c'est une tradition, hein, ce qui date d'il y a très longtemps chez les Celtes, où Patrick, qui est en fait a monté cette montagne pieds nus, y a bâti une chapelle. Et voilà, chaque année, tout le monde va grimper la montagne, pas pieds nus, parce que pas tout le monde le fait, mais il y a des gens qui le font, et moi je me suis dit pourquoi pas y aller, j'ai rien à perdre, et je l'ai fait.
Et c'était pas trop compliqué ?
Si. Les pieds sont chauds, les cailloux ils sont durs, pointus, et moi je l'ai fait avec mon sac à dos en plus, donc c'est très mental. C'est plus mental que physique d'ailleurs, et quand on arrive en haut, on ne bouge plus. J'ai dû attendre bien longtemps avant de pouvoir partir parce que les pieds étaient cuits.
Les pieds cuits, mais l'esprit frais. Nous retrouverons Thibaut demain pour un point plus psychologique sur son aventure. Et puis du basket avec des baskets, c'est mieux. Le nouveau meneur de l'Élan Chalon, Jérémia Hill, est arrivé au club hier avec quelques jours de retard suite à la naissance de son enfant. Jérémia Hill, américano-camerounais de 28 ans, a disputé l'essentiel de sa carrière en Europe. Il a effectué un petit passage en France au sein de Gravelines et il a joué la saison passée en Russie, meneur de 1m88. Il est membre depuis l'an dernier de l'équipe nationale du Cameroun.
Emmanuel Calier, votre agent général Alliance à Louhan et à Lens-le-Saunier, vous présente la météo.
Le beau temps se rétablit dès demain, mais moins chaud, 24-25 degrés. Soleil et chaleur jeudi et vendredi avant un temps plus instable ce week-end.
C'était la météo avec Emmanuel Calier. Votre agent général Alliance vous accueille du lundi au vendredi au 8 rue des Bordes à Louhan et au 13 avenue Turel à Lens-le-Saunier.